France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 mai, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le débat relancé sur l'obligation de vaccination, une nécessité, estime l'Académie nationale de médecine pour atteindre l'immunité collective. Le gouvernement continue, lui, de privilégier la pédagogie. On voit ça Agnès, après les autres titres.
Nous sommes à la limite des politiques de sanctions, reconnaît Emmanuel Macron dans le dossier biélorusse. Faut-il pour autant déclencher un conflit armé? Mais le chef de l'État pose la question. Une nouvelle offensive de parlementaires de tous bords pour légaliser le cannabis. Et puis une devinette, Nicolas. Il fête aujourd'hui ses 100 ans, s'obtient grâce à un examen et sauve des vies tous les jours. Réponse à la fin du journal.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa, vous nous faites une annonce exclusive pour France Inter.
Oui Nicolas, dans le monde de l'art, c'est l'équivalent de l'élection présidentielle. Je peux vous annoncer ce matin en exclusivité qui sera le nouveau patron du plus grand musée du monde, le musée du Louvre, en remplacement de Jean-Luc Martinez. Eh bien Emmanuel Macron a tranché et c'est pour la première fois de l'histoire une femme qui sera présidente du musée du Louvre. Il s'agit de Laurence Descartes qui dirigeait jusque-là les musées d'Orsay et de l'Orangerie. Laurence Descartes sera avec nous à 7h50 pour sa première prise de parole.
Et à 8h20 Léa, on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, député MoDem des Hauts-de-Seine, j'ai nommé Jean-Louis Bourlange. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre une immunité collective, c'est de rendre la vaccination obligatoire. L'Académie nationale de médecine relance le débat pour éviter une reprise de l'épidémie à la rentrée. L'Académie préconise ainsi de vacciner d'abord les enseignants, personnels de santé, forces de l'ordre, enfants et adolescents, puis les professionnels en contact avec le public, commerçants, restaurateurs et les étudiants. Car pour atteindre cette fameuse immunité collective, 90% de la population doit être vaccinée contre le Covid. Or, quel que soit la tranche d'âge, il reste 15 à 30% de réfractaires. Yves Buisson est épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine.
Si vous regardez déjà les courbes des personnes qui étaient prioritaires pour se faire vacciner, c'est-à-dire les personnes de plus de 75 ans, on arrive à un plafond maintenant. Il y a 80% grosso modo de vaccinés, donc il y a 20% qui sont toujours pas vaccinés parce qu'elles veulent pas. Et ça, ce que l'on observe chez les personnes âgées, eh bien on va l'observer au fur et à mesure que le temps passe chez les plus de 50 ans, chez les plus de 30 ans, etc. C'est ce qu'on voit dans les pays comme Israël, la Grande-Bretagne, ça plafonne alors qu'ils ont les vaccins. Si notre communiqué est sorti aujourd'hui, c'est pas pour que l'obligation soit décrété demain, c'est pour qu'on ait le temps de préparer la rentrée. Nous avons proposé qu'un certain nombre de conditions soient des conditions d'exigibilité à la vaccination. Des professions de haute responsabilité, professions en contact avec le public, les étudiants. Eh bien, il faudrait qu'ils soient tous vaccinés pour prendre une inscription à l'université à la rentrée d'octobre. C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est pas quand arrivera le mois d'octobre et que le virus va recommencer à circuler, on va dire comment fait-on ?
Propos recueillis par Hélène Chevalier. L'avis de l'Académie n'est que consultatif et d'ailleurs le ministère de la Santé a fait savoir hier soir qu'il maintenait sa ligne. Convaincre plutôt que contraindre. Pour l'heure, la campagne de vaccination se poursuit sur un rythme d'environ 500 000 injections par jour et une campagne capable de s'adapter avec l'ouverture cet après-midi d'un centre de vaccination éphémère dans le quartier Bacalan à Bordeaux, ouvert 7 jours sur 7 pour essayer d'enrayer la diffusion d'un variant détecté dans une école. Une aubaine pour les habitants du quartier. Reportage d'Yvan Planteil de France Bleu Gironde.
Si la petite Mara, 9 ans, se souvient encore de la réaction de son papa au moment du test PCR ce week-end...
Il a fait... Moi, j'ai même pas bougé.
Sa maman, Olympia, est soulagée. Bientôt, elle ne fera plus de test. Elle va se faire vacciner dans ce centre de Bacalan.
Ça fait depuis la mise en place des créneaux pour les plus de 18 ans, sans comorbidité, etc. Ben voilà, moi, j'y suis tous les jours et j'arrive jamais à trouver de rendez-vous. Donc, je suis ravie que ça puisse être mis en place.
Et ce centre comporte deux avantages pratiques. D'abord, c'est presque un service à domicile. Même si le vaccinodrome du parc des expositions n'est qu'à 20 petites minutes de bus. L'autre point, c'est que les plus jeunes, comme Zoé, peuvent se faire vacciner. Elle a 30 ans et elle surveille attentivement les créneaux.
Je regarde presque tous les soirs. Il n'y a jamais dans le coin. Ou alors, il faudrait trotter à Marmande et tout. Bon, ça va. Donc là, bah, il va y avoir un centre de vaccination à Bacalan. C'est cool.
Abdoulaye, lui, n'était pas convaincu. Alors, quand il a vu que le variant était presque sur le pas de sa porte, il a vite changé d'avis.
J'ai jamais cherché à me faire vacciner. Par contre, je pense que je vais le faire. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, c'est dans mon quartier. Puis je connais des gens qui l'ont.
Et les habitants de Bacalan n'auront pas à justifier qu'ils habitent dans le quartier pour se faire vacciner. L'agence régionale de santé se donne 3 semaines pour administrer toutes les doses.
Et puis rappelons que la campagne de vaccination sera ouverte à tous les plus de 18 ans à partir de lundi prochain.
Il est 7h05, les limites, Agnès, de la diplomatie européenne face aux régimes autoritaires.
L'Union européenne a bien décidé hier de nouvelles sanctions contre la Biélorussie après le détournement d'un avion de ligne européen et l'arrestation d'un opposant au régime du président Loukachenko. Mais geler des avoirs, rappeler des ambassadeurs ou recommander aux compagnies aériennes de ne plus survoler le pays, est-ce vraiment efficace? Et jusqu'où l'Union européenne peut-elle aller? Emmanuel Macron a posé clairement les termes d'une équation sans solution. C'était hier à l'issue du sommet européen à Bruxelles. Angélique Boin.
Vous avez déjà appelé à la libération d'opposants et pris de multiples sanctions. Pourquoi cette fois cela changerait-il les choses? Interroge un journaliste. Le chef de l'État hésite, puis lui retourne la question.
Juste pour que ce soit clair pour moi, vous auriez en tête quel autre type de mesure? Ça n'est pas évident de dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Parce que dans ces cas-là, on déclenche un conflit armé ?
Une réponse en forme de boutade, mais qui n'en est pas une. Privés de leur téléphone portable pour plus de confidentialité et parce que la parole est plus libre, les 27 dirigeants ont bien discuté lors de leur dîner, selon une source européenne, de l'utilité de leurs mesures et le président français en convient.
Aussi bien sur la Biélorussie que la Russie, aujourd'hui nous sommes à la limite des politiques de sanctions.
Mais faut-il pour autant tout miser sur le rapport de force, l'OTAN, les bruits de bottes face à la Russie? C'est l'avis de la Pologne, des Pays-Baltes ou de la Roumanie, indique une autre source, mais pas celui de la France, de l'Allemagne ou encore de l'Italie, pour qui il faut trouver, en plus des sanctions économiques, de nouveaux outils pour faire pression, réfléchir, dit l'Élysée, à notre sécurité énergétique ou à la façon de mieux soutenir les sociétés civiles. Il y a donc eu une bonne discussion.
Nous avons besoin de recadrer très profondément notre relation avec la Russie.
A conclu le président français, le sujet sera en haut de la pile lors du prochain sommet. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et aux États-Unis, c'est la lutte contre les violences policières et le racisme qui se heurte à la réticence de certains sénateurs. Joe Biden recevait hier la famille de George Floyd, un an après la mort de cet Afro-Américain, victime d'un policier blanc à Minneapolis. Correspondant signé Loïc Loury.
George Floyd. Le poing levé des proches de George Floyd devant la Maison Blanche, c'est l'image qui restera de cette journée de commémoration. Pour ce qui est des annonces, en revanche, il faudra encore attendre. Joe Biden, en effet, souhaitait avant cette date anniversaire l'adoption de sa réforme des pratiques de la police, mais le texte reste bloqué au Sénat. Le frère de George Floyd philonise. Voilà la situation. Si vous pouvez voter une loi fédérale pour protéger un oiseau, l'aigle, emblème de l'Amérique, vous pouvez voter un texte pour protéger les gens de couleur. Le projet déjà voté par la Chambre prévoit notamment de limiter la très grande immunité dont bénéficient les policiers américains. C'est le point crispant des négociations avec l'opposition républicaine. Et si la famille de Floyd, à l'image de son neveu, se montre compréhensive à l'égard du président, il soutient la loi, mais il ne veut pas que ce soit fait dans l'urgence. Il veut une bonne loi qui ait du sens, que l'héritage de George soit préservé. Rien n'indique que le texte sera voté tel quel. En attendant, et malgré des réformes locales dans certaines villes et certains États, plusieurs noms se sont ajoutés à la liste des victimes afro-américaines de violences policières. New York, Loïc Loury, France Inter.
En France, 14 ans de prison ont été requis à l'encontre de Philippe Gérard, poursuivi pour agression sexuelle sur des enfants cambodgiens et népalais dont il s'occupait sous couvert d'aide humanitaire. Jugement attendu le 5 juillet. Faut-il dépénaliser le cannabis? Une nouvelle proposition de loi transpartisane a été déposée hier à l'Assemblée. Arrêtons l'hypocrisie, disent en substance les parlementaires, qui contestent le tout répressif et demandent une véritable lutte contre les trafics de drogue. Laurence Perron.
Étonnant, effectivement, d'entendre il y a quelques semaines un président de la République s'insurger, je cite, « contre le joint que l'on se roule dans son salon et qui alimente le plus grand des trafics ». Sourire néanmoins quand le youtubeur Carlito lui narre ses pseudo-expériences de drogue.
J'aimais bien les substances à l'époque. Et d'ailleurs, les substances, faites très attention.
C'est pareil, nous, c'est non, toi.
Un soir d'été en Corse.
Oh, c'est oui. Éventuellement avec un petit rose et moi, enfin bon.
La drogue est un véritable problème de santé publique et la répression n'est pas une réponse, estime le député insoumis Éric Coquerel, qui propose une légalisation sous contrôle de l'État.
Sous contrôle strict de l'État, à travers une agence qui serait créée et qui permettrait, j'allais dire, de suivre la filière de la production jusqu'à la distribution.
Le député La République En Marche de l'Hérault, Patrick Vignal, insiste.
Dans une cité de Montpellier, je suis rentré à 8h du matin, j'ai vu 4 gamins de 14 ans, il y avait 250 000 euros sur la table. Eh bien, je ne savais pas quoi leur répondre.
François-Michel Lambert, du groupe Liberté et Territoire, qui vient de voir son salaire amputé de 1400 euros pour avoir brandi un joint dans l'hémicycle, est convaincu que la victoire est proche.
On sait que la légalisation du cannabis est inéluctable.
Les études le prouvent. Tous les pays, à commencer par le Portugal, qui ont ont expérimenté la dépénalisation ou la légalisation ont aujourd'hui marqué des points en termes de lutte contre le trafic de drogue.
Laurence Perron, et puis la lutte contre le tabac patine. Le nombre de fumeurs a arrêté de baisser l'an dernier, notamment chez les personnes en difficulté financière. Un adulte sur quatre en France est un fumeur quotidien.
Il est 7h10, le Louvre sera donc bientôt dirigé par une femme.
Et c'est France Inter qui vous révèle ce matin le nom de celle qui va donc succéder en Jean-Luc Martinez. Laurence Descartes, 55 ans, est l'actuelle présidente du musée d'Orsay. Portrait d'une femme au parcours sans faute, signé Isabelle Pasquier.
Laurence Elisabeth de Pérusse Descartes se rêvait archéologue. Elle est la fille du journaliste et écrivain Jean Descartes et la petite-fille du romancier Guy Descartes. Elle a suivi un parcours classique, études d'histoire de l'art à la Sorbonne, école du Louvre, puis école nationale du patrimoine. En 94, elle devient conservatrice au musée d'Orsay. En 2007, son sens des relations culturelles internationales l'a conduit à devenir directrice scientifique de l'agence France Muséum, chargée du développement du Louvre à Abu Dhabi. Après avoir dirigé l'orangerie, elle revient en janvier 2017 au musée d'Orsay et à l'orangerie, mais cette fois en tant que présidente de ces temples de l'impressionnisme. Laurence Descartes est spécialiste de l'art du 19e et début 20e. Femme charismatique, elle a signé de grandes expositions, une rétrospective Courbet, le modèle noir et actuellement l'origine du monde. Laurence Descartes mène aussi une réflexion sur la mission des musées dans la société, leur place dans le monde et l'accessibilité à l'art.
Laurence Descartes qui sera donc l'invitée de Léa Salamé tout à l'heure à 7h50 sur Inter. Enfin Nicolas, vous avez trouvé, c'est le code de la route, ma devinette.
Ah bah voilà,
promulgué le 27 mai 1921 pour 333 000 véhicules en circulation. Il concerne aujourd'hui plus de 38 millions d'automobilistes. Il a donc bien changé, Delphine Evenouf.
Dans le code de la route version 1921, pas de limitation nationale de vitesse, sauf pour les poids lourds. Certes, les communes peuvent prendre des dispositions, mais la règle officielle demande simplement aux conducteurs de rester maître de leur vitesse. Une formule qui perdure jusque dans les années 60.
Rouler à fond, comme on dit, le pied au plancher, zéro de conduite.
Le décret tranche toutefois un débat féroce, circulation à droite, et d'autres bases sont jetées. Marie-Gauthier Melleret, déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Le fait qu'il y ait une priorité à droite, par exemple, ou qu'on dépasse par la gauche, sont des règles qui étaient déjà dans le code de 1921.
Un code qui connaît un coup d'accélérateur à partir de 1972. 18 000 morts sur les routes cette année-là, un électrochoc. Ceinture à l'avant et casque à moto, vitesse à 130, 110 ou 90 km/h, puis alcoolémie, contrôle technique et réforme du permis. Tout cela non sans résistance.
Conducteur parisien, soyez courtois.
Le code de la route centenaire continue toujours sa mutation.
Les règles applicables aux bêtes de trait et aux animaux montés sont un peu plus exotiques. Elles ont été remplacées aujourd'hui par les règles qui sont applicables aux trottinettes électriques. Et peut-être que demain, les règles applicables à ces vieilles automobiles qui se conduisent uniquement avec conducteur derrière, eh bien, elles apparaîtront comme étant exotiques.
Car la voiture autonome se tient prête pour révolutionner une nouvelle fois notre législation routière.
Delphine Evenou, et pour réviser les bases du code, rendez-vous sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes ce matin, des témoignages rares de rescapés de Bicicero, au Rwanda.